t'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Katanga oriental. Je réfute totalement ce que tu
dis. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous, merci de votre fidélité à la fréquence de la paix. Radio Okapi qui vous propose parole aux auditeurs. La République démocratique du Congo a annoncé mardi 16 octobre dernier la signature d'un accord de développement exclusif avec deux entreprises chinoises et espagnoles pour tenter de financer son projet de barrage hydroélectrique Inga 3 sur le fleuve Congo d'une capacité de 11 000 MW. Selon plusieurs analyses, le projet d'Inga 3 est capital pour la RDC parce qu'elle va apporter 4,8 MW et sera la réponse à l'industrie du pays, la réponse à l'électrification du pays également, la réponse pour plusieurs sous-régions de l'Afrique. C'est donc un grand rendez-vous présent. Pense certains, quel regard portez-vous sur la manière dont le pays négocie et avance avec le projet Inga 3? Rejoignez-nous au 081 890 49 69 et 09 97 06 49 69 pour vos interventions en direct. Vous pouvez également déposer votre commentaire sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Paroles aux Auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Projet Inga 3, on en parlera encore. Plusieurs tentatives pour arriver à concrétiser ces projets de 11 000 MW pour résoudre la question d'électrification de la RDC et l'ensemble de la sous-région de l'Afrique. Nous en parlons avec vous. Plusieurs tentatives depuis plusieurs années. Comment jugez-vous la manière dont ces projets est menés? Pourrions-nous un jour arriver à sa concrétisation? Nous en parlons avec vous. Vous êtes nombreux à avoir commenté les sujets sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Nous avons Christian qui nous appelle de Bandundu. Merci de nous avoir rejoints parce que vous êtes aussi nombreux à vouloir nous intervenir en direct. Christian, bonjour et bienvenue dans Parole aux Auditeurs.
Bonjour Pierrot la Mégie et bonjour aux auditeurs.
On vous écoute.
Merci Pierrot de la parole accordée. Je crois que comme vous l'aviez également dit, quand vous aviez souligné les pensées des analystes, c'est vraiment un projet capital pour la RDC. C'est pratiquement une unité de production, un créateur des ressources mais aussi d'emploi. Mais seulement, Pierrot la Mégie, il faut comprendre que moi, personnellement, je suis abasourdi de constater comment le gouvernement va déposer un projet sans pour autant réhabiliter justement les barrages déjà existants. Du reste, aujourd'hui, frappé par une incurie sans pareil, je vois ici les sites Inga 1 et Inga 2, mais aussi finaliser d'autres projets en cours d'exécution qui, dans une certaine mesure, Pierrot la Mégie, semble justement à s'y méprendre à une sorte d'éléphant blanc, tel est le cas du barrage de Kakobo là, à Kikuit. Et justement, Pierrot la Mégie, pour finir, moi je fustige la manière dont certains contrats passés entre les gouvernements congolais et les co-contractants ceci justement de certaines dispositions de la loi sur la passation des marchés publics. Et cela, justement, à la longue, posera des problèmes, notamment en ce qui concerne à la viabilité de ces ouvrages ou encore la traçabilité d'un certain nombre de choses. Donc, les projets est vivement, les projets est vraiment rentable. À la longue, il sera vraiment rentable, mais il faudrait encore que nous puissions d'abord capitaliser ce que nous avons comme projet. Parce que si nous nous concentrons à ce projet-là, en abandonnant ce qui existe déjà, demain, nous finirons encore à faire du surplace. Parce que, souvenez-vous, avant Inga 2, il y a eu d'abord Inga 1. Alors nous sommes allés à Inga 2. Alors il ne faut pas aller de projet en projet, sans pour autant commencer d'abord à réhabiliter ou à redonner ou à redorer le barrage qui existe déjà. Et c'est là, cet ensemble-là fera en sorte que la RDC ait justement une capacité d'électrifier l'Afrique et pourquoi pas même une partie d'autres continents. Je vois ici l'Europe et aussi l'Asie.
Mais rappelons quand même que le projet divise aussi, parce qu'il y a dernièrement, vous rappelez qu'il y aura 40 ONG qui se sont plaints pour dire que non, voilà, il y a la question de la gouvernance qui se pose, ce ne sera pas bon de pouvoir exécuter ces projets maintenant. Ils ont évoqué aussi les cas de populations locales. On sait que le projet a divisé une fois la Banque mondiale, qui avait aussi investi un programme dans la concrétisation de ces projets. Il s'était retiré, on avait fait un débat autour de ça, estimant que le gouvernement congolais avait nommé à la tête de l'agence, une personne qui dépendait directement de la présidence. Il y avait les questions de gouvernance, il y avait aussi les questions de l'environnement qui s'est posé. Est-ce qu'avec autant de préalables, pensez-vous aujourd'hui qu'on arrive vraiment à concrétiser ces projets, Christian?
Bon, Pierre Lamézi, il faut tout simplement commencer d'abord à respecter les lois. Vous savez, dans ces domaines, nous avons la loi sur la protection des marchés publics. Une fois que cette loi sera respectée, je crois que nous pouvons justement atteindre l'idéal. Mais lorsque vous avez toujours des pesanteurs qui pèsent ça et là pour empêcher justement la transparence dans la protection des marchés, eh bien, nous ferons que d'ici là, Pierre Lamézi.
Merci beaucoup Christian. S'il n'y a pas la transparence, on risque de faire encore du surplace. Élie, vous êtes en Bandaka. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour Élie.
Oui, bonjour Radio Capi. Bonjour à tout le monde. Je salue l'intervention de M. Christian. La question de l'électricité en République démocratique du Congo, il l'a bien dit, il y a plusieurs projets. Le premier, il y a un, ce n'est pas un projet, c'est juste... un projet déjà réalisé. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a, aussi les partenaires qui financent les projets, notamment le Nigeria. Parce que je connais à un certain moment, j'ai essayé de travailler dans les sujets qui concernent les transferts des eaux du bassin du Congo Belge. Et là, Christian, nous avons découvert qu'il y a certains partenaires qui financent assez qui le projet soit réalisé, mais ça ne puisse pas compromettre le fonctionnement hydroélectrique des Inga 1, Inga 2, pourquoi pas aussi Inga 3. Mais nous avons vu qu'il y a des partenaires qui financent, il y a des pays qui ne sont pas dans le Congo qui bénéficient de cette électricité, notamment le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Cameroun, pourquoi pas aussi citer le Japon. Et dans cette hypothèse, j'aimerais bien dire que plus de 90 millions de Congolais aujourd'hui ne bénéficient pas de cette électricité. Mais nous constatons à un certain moment qu'il y a certains pays qui bénéficient de l'électricité de notre pays, sans pourtant que nous serons les bénéficiaires. Alors que là-bas, dans le projet Inga 3, que les Chinois veulent en tout cas réaliser, ils le font avec pour motif pour résoudre le problème de l'industrie. Est-ce qu'on peut poser des questions? Lorsque certains États, le Nigeria, l'Afrique du Sud, qui sont les pays émergents, bénéficient de notre électricité, là-bas, ils ne font pas les industries. Ça, c'est la première question. Pour que vous puissiez, en tout cas, élaborer d'autres projets, notamment les Inga 3, avec pour raison, et chercher à résoudre le problème de l'industrie en RDC. Ça, c'est une utopie. Ça, c'est vraiment quelque chose que nous ne pouvons pas accepter. L'autre chose que nous pouvons aussi marteler, c'est que le bassin hydrographique du fleuve Congo a un problème de son débit. Là, tout le monde le sait, parce qu'il faut faire des analyses de plus écologiques. Il faut faire aussi des analyses dans ce sens-là, parce qu'il y a un problème de son débit. Le débit du bassin du fleuve Congo continue à diminuer, notamment le fleuve Congo à côté de Goma, là où s'est installé les Inga 1, Inga 2 aussi également. De ce côté-là, il y a une baisse de débit. Alors que lorsqu'on veut aussi créer d'autres complexes hydroélectriques, notamment Inga 3, ça compromettrait la valeur hydrographique du bassin du fleuve Congo. Et à un certain moment, vous allez comprendre que les systèmes fonctionnels de cet écosystème aquatique aura des problèmes pour son fonctionnement. D'autres choses que nous, sur lesquelles nous pouvons nous appuyer, c'est quoi, Pierrot? Ce n'est pas la question de plusieurs projets. Je pense que M. Christian a bien martelé sur ça. C'est une question de la bonne gouvernance. Les autorités congolaises n'ont pas le sens de bien gérer notre pays. Ce n'est pas question de pouvoir élaborer des projets Inga 1, Inga 2, Inga 3. si on devait avoir de bons dirigeants, les Congolais ne pouvaient pas vivre en obscurité. Nous sommes un pays potentiellement riche en capacité hydroélectrique. Mais la population congolaise vit comme...
Mais alors, on estime qu'on peut, avec le projet Inga, on peut arriver à concrétiser cette question de l'électrification, peut-être à 90%, à 100%, mais aussi à l'écart de l'industrialisation qui se pose. Mais là, vous revenez, hein, vous rejoignez ces ONG, mais aussi hein, ce qui a été, il y a quelques années, évoqué au Sénat américain, y compris aussi à des ONG américaines qui avaient estimé que le projet Inga 3 pourra avoir des conséquences sur l'écosystème, que ce soit pour par rapport au débit du fleuve Congo lui-même, qui a aussi de l'impact sur Ubangi jusqu'au lac Tchad, mais les débats aussi a été évoqué dernièrement pour pouvoir soutirer les eaux du fleuve Ubangi pour alimenter le lac Tchad, en estimant que cela peut avoir des conséquences sur le fleuve. Et pour vous, la question environnementale se pose, et dans cette configuration, vous estimez que c'est difficile qu'on arrive à concrétiser ces projets dans ce sens. Rappelons quand même que les projets demandent aussi assez de fonds, qu'il faudrait trouver aujourd'hui des partenaires crédibles qui peuvent financer les projets. Dieudonné, vous êtes à Arou. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous nos millions d'auditeurs et auditrices, particulièrement ceux qui aiment Paroles auditeurs.
On vous écoute, Dieudonné.
Merci pour la parole. Et par rapport aux thématiques du jour, nous ne pouvons que saluer cet accord, parce que si on voit bien, cela vient de nouveau apporter 4,8 mégawatts. Et ça sera la réponse. Ça sera la réponse par rapport à nos besoins. Quand nous voyons bien que chacun, pour le moment, interpelle le gouvernement, quand est-ce qu'on peut consommer le Made in Congo? Quand est-ce qu'on peut avoir l'émergence? Quand est-ce qu'on peut avoir des investisseurs? Ces investisseurs peuvent venir quand même la situation par rapport à l'électricité est maintenue et réglée. Et Inga 1, Inga 2, si ça n'a pas fourni l'électricité à tous les paisibles citoyens congolais, et même ça n'a pas répondu favorablement à ce que nos industries se retrouvent, nous ne pouvons que saluer cet accord, nous ne pouvons que saluer ce partenariat. Et ce qui est très capital par rapport à cela, s'il y a des investisseurs, la population se retrouvera, les vécus quotidiens vont être transformés. Chacun quand même se sentira que même nos mamans, le panier de la ménagère sera bel et bien établi. Alors, ce qui est là, c'est tellement capital que le gouvernement accepte de tels projets et que les Congos aillent de l'avant pour qu'on ait des vitriers et qu'on ait des investisseurs et que nous-mêmes, étant Congolais, nous nous retrouvons, parce que j'ai toujours dit que nous sommes fiers quand nous consommons le Made in Congo. Ce qui peut être comme peut-être suggestion aussi à nos dirigeants, parce que là aussi, à Salua, ce n'est pas seulement nous acceptons avec les deux bras, mais il faut que cela puisse réellement profiter à nous, d'abord aux Congolais, parce que nous avons connu des projets, nous avons connu des partenariats, nous avons connu des accords signés, mais qui ne profitent pas à la population. Les souverains primaires ne se retrouvent pas. C'est bien, on a souligné les pays frontaliers comme les autres pays voisins. Ça va, il n'y a pas de problème. Mais d'abord, il faut que le gouvernement puisse faire un cadre et que nous, étant peuple, que nous puissions réellement nous rassembler de ce qu'on a pour partager ce petit gâteau avec les autres. Parce que quand on va commencer à dispenser aux autres pays avant que nous-mêmes nous puissions réellement nous réjouir de ce que nous avons, ce que le bon Dieu nous a donné, ça sera faux. Mais aussi, par rapport à tout cela, je peux aussi continuer à dire que seulement que le projet soit aussi maintenu et que cela ne puisse pas être
Oui, merci beaucoup, merci Dieudonné. Mais quand on regarde l'historique de ces projets, on se rappellera qu'en 2014, la Banque mondiale avait mobilisé près de 73 millions de dollars pour l'étude de faisabilité pour Inga 3. Nous en avions parlé cette fois-là. Et d'ailleurs, il était aussi question de se pencher sur l'étude environnementale. Et la Banque mondiale a pu se retirer du projet parce qu'elle estimait que le gouvernement congolais avait fini par nommer à la tête de l'agence, une personne qui dépendait directement de la présidence. On en avait parlé. Après, dans l'historique, il y a eu la tentative avec l'ancien président sud-africain Jacob Zuma, qui était venu ici au Congo, qui avait croisé les chefs de l'État. On avait évoqué la possibilité que les travaux soient financés par cofinancés avec l'Afrique du Sud pour la production d'autant des mégawatts. Ça n'a pas marché, vous vous rappellerez encore. Maintenant, il y a ces consortiums, n'est-ce pas, de ces entreprises espagnoles et chinoises. Et d'ailleurs, lors de la semaine de mine au Katanga, le coordonnateur de l'agence pour le développement du projet Inga avait estimé que les deux entreprises avaient accepté de pouvoir fusionner pour pouvoir être en mesure de financer et produire les 11 000 mégawatts plutôt que les 4 800 mégawatts comme proposé par la Banque mondiale. Voilà autant de projets, autant d'études de faisabilité, autant de contrats. Mais enfin, pourrions-nous arriver vraiment à mobiliser l'argent comme il faut pour le faire? Serge, vous êtes à Kamina. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour.
Bonjour, mon ami Pierrot. Bonjour à tous les millions auditeurs de la radio Capi qui nous écoutent à ce net moment.
On vous écoute, Serge.
Oui, moi, j'avais même posté ça sur ma page Facebook. Je disais que, bon, l'idée est bonne. Vu le moment choisi, en tout cas, je vois que ça ne peut pas aboutir. Puisque, dans les chefs de nos politiciens, c'est quoi? Quand un politicien amorce une idée, dès qu'il démissionne ou qu'il n'a plus des fonctions, c'est lui qui vient à son remplacement là, il va abroger toutes les méthodes, toute la procédure que l'autre et le prédécesseur avait. C'est vraiment compliqué. Si peut-être ils peuvent recourir à certaines idées telles que, non, on doit appuyer les idées des anciennes, celles-là qui nous ont précédés dans la direction, et peut-être là ça peut aller. Et puis je crois que la base militaire Kamina sera la première à être privilégiée pour ça, c'est une bonne chose. Puisque quand vous entrez en Zambie, là, vous voyez comment notre Inga Shabala entre en Zambie. Ça, c'est la beauté. Hein? Si c'était ici, c'est nous. Le courant qui nous dépasse ici à quelques 18 kilomètres, on n'en a pas. Hier, il y a eu un formateur qui venait pour former cela les inspecteurs. Et quand il y a eu la pluie, vous voyez, difficile, comment il fallait peut-être. La salle n'était pas aérée. Là, nous sommes en train d'encourager, mais vu le moment, je crois que c'est pratiquement difficile.
Pour vous, c'est difficile, hein, parce que il n'y a pas le principe de continuité de l'État. Nassor, merci de nous avoir rejoints. Bonjour, Nassor.
Bonjour, bonjour aussi à tous les auteurs de la radio Capi. Je suis vraiment très heureux d'attendre cela. Maintenant, monsieur journaliste, moi, je ne me marie pas avec cette idée-là démagogique des autorités congolaises. Pourquoi? Vous savez, les moments auxquels nous nous retrouvons aujourd'hui. Moi, je pense que Inga 1, Inga 2 suffisent déjà. Vous allez voir aujourd'hui même à Kinshasa. Moi, je suis venu de la province du Maniema. Je savais qu'à Kinshasa, il y a une électrification stable. Mais c'est tout autre, mon frère. Même si on peut faire aujourd'hui Inga 3, ça ne peut pas vraiment suffire au peuple congolais. Il y a de pays africains qui bénéficient de notre électricité à 100% par rapport à nous, le propriétaire. Donc ça, c'est une façon de polluer l'environnement pour rien. Ça, c'est une façon de voler, de détourner les biens publics pour rien. Moi, je crois qu'avec Inga 2, tout va bien par rapport à créer encore Inga 3 pour polluer pour rien l'environnement, parce que nous sommes que les consommateurs de la pollution et les gens qui bénéficient du courant. Ce sont les autres gens qui nous tracassent à leur pays, qui nous frappent, qui nous lapident vraiment dans des conditions inhumaines. C'est pourquoi je vois que nous ne serons pas toujours derrière la pollution et les gens qui consomment bien les courants sont à l'extérieur. Avec Inga 1, Inga 2, on peut se limiter par là.
Merci. Mais vous avez raison, Nassor, vous avez raison. D'ailleurs, la question des Inga 1 et Inga 2, quand on regarde aujourd'hui le besoin, il faut plus de 800 millions de dollars pour pouvoir réhabiliter, maintenir Inga 1 et Inga 2. Il y a eu 200 millions de dollars qui ont été débloqués dernièrement pour Inga 1 et Inga 2. Beaucoup de gens, beaucoup d'observateurs estiment que l'argent n'a pas suffi sérieusement pour pouvoir améliorer la desserte en électricité pour ces deux barrages. Ça, c'était un plan qui a été établi depuis 2003, mais rappelons quand même que pour Inga 3, il faut débourser près de 14 milliards de dollars américains. 14 milliards de dollars américains, quand on sait que le budget de la RDC, aujourd'hui, c'est un tiers de ce montant.
montant qu'il faut pour construire et réaliser les projets Ingatua, mais avec les partenariats comme on le voit aujourd'hui où le gouvernement congolais demande aux des entreprises, aux des consortiums chinois et espagnols de pouvoir fusionner et devenir une seule entreprise qui soit capable de financer et qu'on arrive à produire ces 11 000 mégawatts. Mais pour vous, il faut que cela se concrétise. Merci beaucoup. Vous êtes nombreux qui êtes en train de commenter ces sujets sur la page Facebook où on se retrouve tout à l'heure, mais en FM aussi, vous pouvez commenter. Merci de nous avoir rejoint, Étienne. Vous êtes à Guémena. Bonjour.
Bonjour Radio Capi, bonjour à tous les auditeurs.
On vous écoute, Étienne.
Oui, merci monsieur le journaliste. Vous savez, l'électricité se retrouve parmi les besoins prioritaires pour notre pays, donc les besoins prioritaires du développement dans notre pays. Moi, je pense que la signature de ce projet du gouvernement congolais avec les deux firmes espagnoles et chinoises qui doivent être ensemble, moi, je pense que c'est une avancée dans la mesure où, vous savez, partout en République démocratique du Congo, le besoin de l'électricité est là. Mais le vrai problème, c'est que nos dirigeants doivent quand même faire la part des choses, c'est-à-dire ils doivent avoir ces principes de continuité. Donc chercher à tout prix à terminer les projets. Il y a certains collègues qui sont passés, qui venaient de fustiger les problèmes par rapport à la réalisation des travaux pour Inga 1 et Inga 2. Mais néanmoins, j'estime que, étant donné que le gouvernement a signé ce contrat avec deux partenaires qui vont fusionner, et je pense que les 14 milliards de dollars avec ces deux partenaires, moi je suppose que ça peut quand même aider à la réalisation de ces projets. Mais néanmoins, qu'il ait une bonne gestion, c'est-à-dire qu'on voie vraiment les besoins du développement, c'est-à-dire l'argent ou alors les fonds débloqués pour la réalisation des travaux de Inga 3 ne soient exclusivement réservés pour la finalité de ces travaux-là. Mais malheureusement, parfois, l'argent, les fonds destinés pour telle activité sont parfois pris pour d'autres fins. Mais sinon, faisons confiance au gouvernement congolais. Et c'est une avancée dans la mesure où, savons que, tant bien que mal, on suppose que le gouvernement est en train de se battre pour l'intérêt de sa population. Ça, c'est vraiment à féliciter. Mais néanmoins, qu'on mette la population à l'aise, qu'on finalise les travaux, que les litiges par rapport à Inga 2, Inga 3 qui coûteraient extrêmement cher et dont le financement pose problème. Mais néanmoins, si Inga 3 serait terminée, je pense que ça donnerait solution à beaucoup de problèmes et vraiment, je pense que ça mettrait nous, Congolais, à l'aise. Non seulement les Congolais de Kinshasa, mais je parle ici des Congolais de la République démocratique du Congo tout entier, y compris nous qui sommes à l'intérieur, c'est-à-dire dans le Sud-Ubangi, à Guémena en particulier.
Merci beaucoup, Étienne. Sur la page Facebook, Fanny Ifengu. Pour lui, l'exécution de ces projets constitue un gaspillage des deniers publics et une pollution environnementale, étant donné que les deux barrages hydroélectriques Inga 1 et Inga 2 suffisent déjà pour électrifier le Congo-Kinshasa. Question de asseoir une bonne politique. Mais pour lui, Albert Mbakaman, sur la page Facebook, estime que c'est un projet très capital pour l'économie congolaise, mais la réussite de ces projets réside sur le respect des contrats signés, car on se rappelle qu'en 2016, la Banque mondiale avait rompu avec nous dans le projet de faisabilité, d'études de faisabilité, parce qu'il avait estimé que la RDC ne respectait pas les règles dans la nomination de certaines personnes qui devaient gérer le projet. À Lubumbashi, ingénieur Bondich, merci de nous avoir rejoint. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Radio Capi, merci beaucoup pour la parole. J'ai suivi religieusement votre émission d'aujourd'hui, mais malheureusement, je suis dans l'obligation de vous dire qu'on raconte souvent des mensonges au sujet du grand barrage Inga. Que ce soit Inga 1, Inga 2, Inga 3, tout ça, ça ne prie pas les vrais besoins en énergie électrique de la population congolaise. Imaginez-vous que selon les Nations Unies, il faut au minimum 500 kWh par habitant et par mois pour pouvoir, disons, mettre une personne plus ou moins à l'aise en ce qui concerne l'énergie électrique. Et quand vous prenez ce chiffre de 500 kWh par mois, 500 kWh par mois, par habitant, et en faisant une certaine perspective, quand vous voyez dans l'avenir, si les Congolais arrivent au nombre de 100 millions d'habitants, nous aurons besoin de plus ou moins 50 000 mégawatts, s'il vous plaît. Et cela rien que pour la consommation domestique, sans tenir compte de la consommation industrielle. Il est donc illusoire de croire que construire Inga 2, Inga 3, ça ne servira à rien. Ça servira à quelque chose. On ne peut pas se développer sans énergie électrique. Nous avons absolument besoin de cette énergie électrique. Et quand vous imaginez que nos autorités font tous ces projets pour pouvoir vendre l'énergie électrique à l'extérieur, ben, on a l'impression qu'on a affaire à des fous. À des fous, parce que toute cette production ne suffira jamais pour la population congolaise. Il nous faut au minimum 50 000 mégawatts pour la consommation domestique.
Alors, Bondish, alors pour vous, vous estimez que quand on réalise un projet comme Inga 3, il faut d'abord le concentrer pour qu'il soit pour la consommation locale, dès lors qu'il ne va pas résoudre le problème. Mais on ne peut pas déjà penser qu'on peut produire les 11 000 et pouvoir exporter cela, quand bien même le besoin est énorme et plus grand.
Non, mais ça va de soi. Il faut d'abord satisfaire les besoins de la population. On ne peut pas songer à l'extérieur tant que nous-mêmes Congolais, on n'est pas suffisamment servis.
Mais alors, Bondish, parce que vous êtes dans votre domaine, quand vous regardez alors le besoin en termes de financement, il faut 14 milliards de dollars, pensez-vous que la RDC soit capable aujourd'hui de mobiliser, mais si jamais le contrat signé permet que les 14 milliards de dollars soient mobilisés, faudrait-il aujourd'hui trouver la consommation qui permette à ce que les bailleurs de fonds puissent récupérer les fonds investis dans ces projets?
Oui, c'est-à-dire que tous ces projets sont très, très, très mal négociés. Quand vous voyez dans la construction de barrages, qu'est-ce qui est utilisé? On utilise le ciment. Et il est inadmissible que le ciment qu'on va utiliser pour la construction de ces barrages puisse venir de la Chine. Parce que ce qui coûte dans le prix de choses du ciment, c'est le transport. On transporte du ciment venant de 10 000 km, alors qu'il y a du ciment qu'on peut produire à 50 km du barrage de Inga. C'est pas normal. Et ensuite, qu'est-ce qui intervient dans la construction d'un barrage? C'est le fer. Nous avons combien de minéraux de fer ici? Nous en avons trop en RDC. Pourquoi ne pas les utiliser pour essayer de réduire le coût d'investissement de ces barrages?
Et ça, c'est important, ce que vous avez dit. Vous estimez que tout est mal, le projet sont tellement mal négociés. Merci beaucoup, Bondish. Vous avez dit, on aura besoin de consommer du ciment. Pourquoi ne pas produire les ciments localement plutôt que, en réduisant le coût en consommant les ciments qui est produit au Congo plutôt qu'aller acheter, par exemple, les ciments en Chine avec le coût de production plus les transports? Cela entre dans les coûts globaux. Le minerai de fer, nous avons des gisements de fer dans le pays. On peut investir dans les gisements de fer pour ne pas importer le matériau qui vient de l'extérieur, tout cela peut permettre de réduire les coûts sur l'investissement global. 081-890-4969, 081-890-4969, 09-97-06-4969, ce sont les deux lignes pour intervenir en direct.
Parole aux auditeurs. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Simon, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes à Matadi, dans la province du Congo central. Bonjour.
Bonjour, c'est Simon Tiloulou depuis Matadi, au Congo central. Évidemment, à 50 km vol d'oiseau des barrages hydroélectriques d'Inga. C'est là où je parle maintenant. Alors, en fait, à entendre les uns et les autres les sujets, ça, la façon de faire le gouvernement congolais m'a rappelé un adage que j'avais eu depuis l'école primaire, qui disait que qui trop embrasse mal éteint. Mon cher, le barrage d'Inga, tel qu'il est là, c'est vrai, il y a Inga 1, Inga 2. Les gens ne comprennent pas quand on dit Inga 3, comme si Inga 2 et Inga 1 ont donné la satisfaction de ce qu'il fallait, on va à Inga 3. Les problèmes aujourd'hui, les vrais problèmes, nous partons souvent en tant que société civile à Inga.
Il est seulement question, et ça ne demande pas beaucoup d'argent pour qu'on réhabilite Inga 1 et que Inga 1 soit full. Ce n'est même pas des milliards. Et puis Inga 2 ne demande pas aussi beaucoup d'argent. Pourquoi ces investisseurs ou pourquoi le gouvernement congolais ne s'investirait pas d'abord à rendre full Inga 1 et Inga 2? Après, on peut aller là, parce que maintenant, il y aura un problème écologique aussi avec Inga 3. Pourquoi on veut façonner ce qu'on n'a pas, alors qu'il fallait réhabiliter ce que nous avons déjà? Moi, je pense que même tout ça, ça devient vraiment une sorte de théâtre. Nous sommes fatigués avec tous ces gens qui passent par ici pour aller à Inga. On a des Américains, des Anglais, les Sud-Africains, maintenant les Espagnols, les Chinois, les Coréens. Tous ces défilés, maintenant la population est en train de voir si ce ne sont pas des avantages, parce que rien ne tient jusqu'ici de ce qui a été fait. Le mieux à faire serait d'abord de réhabiliter Inga 1 pour qu'il donne le 100%. Et avec ce 100% de Inga 1, on va desservir beaucoup de pays et nous-mêmes. On réhabilite le Inga 2. Si Inga 2 donne 100%, nous aurons déjà atteint. Et Inga 3, on peut maintenant commencer ce projet pour que nous servions les pays du monde. Et le Congo va gagner en termes d'argent et en termes de servir sa propre population. Parce que la production locale est entamée aussi à cause des manques d'énergie. Et il faut voir combien de fois la SNEL est attisée au parquet, tout ça de gauche à droite, parce que chambre froide, parce que société intelle, parce que le courant, et tout ça. Je crois que c'est facile à réfléchir, puisque nous voulons tout amasser. Et vous verrez, Inga 3, on va abandonner, on va courir vers Inga 4. Et Inga 3 n'est pas encore fait. Gap 5, c'est comme ça qu'ils vont continuer. Non. L'essentiel, rentrons, mettons nos pieds sur terre. Voyons ce qu'il faut pour Inga 1. Remplissons tout ce qu'il fallait, et puis nous progressons. Nous remplissons Inga 2, et une fois fini, on peut voir les autres choses. De briser, de sauter les étapes. Vous avez Inga 3, alors que Inga 2, Inga 1 n'ont pas encore satisfait. Il y a des choses qu'il faut faire simplement avec moins d'argent. Ça, d'ailleurs, même le gouvernement congolais peut financer. Ce ne sont pas des termes de milliards, mais c'est en termes de millions simplement. Même le gouvernement peut financer, et nous avançons. Au lieu d'attendre toujours la main vers les Chinois, vers les Espagnols, qui visent l'intérêt parce qu'ils sont des capitalistes. Ils vont viser leur propre intérêt aussi dans tout ça. Voilà ma petite contribution que je pouvais donner au gouvernement congolais, qu'il se rappelle de cet adage que tous nous avons appris à l'école primaire, qui trop embrasse mal être. Merci.
Merci beaucoup Simon. Pour vous, au lieu de sauter, de penser déjà au projet Inga 3, parce qu'on y ira jusqu'à Inga 8, hein, selon les chargés de mission de l'Agence pour le développement du projet Inga. Pourquoi ne pas mobiliser de fonds pour réhabiliter Inga 1 et lui permettre de produire au maximum, ainsi que Inga 2 pour la consommation domestique, et puis après voir comment développer le projet Inga 3 pour l'exportation de l'électricité. Mais notre ami Bondich estimait tout à l'heure que Inga 3 c'est 11 000 mégawatts, alors que le besoin réel de la population congolaise peut s'élever jusqu'à 50 000 mégawatts. Alors tout ça, ça ne peut alors que résoudre le problème à l'intérieur du pays, au lieu de penser à l'exportation. Et pour vous, commençons d'abord par réhabiliter Inga 1 et Inga 2, permettant à ces deux barrages de produire au maximum, et après on peut voir comment arriver à lancer le projet Inga 3. Merci beaucoup Simon Apocalypse, vous êtes à Kikwit. Vous nous avez rejoint dans cet échange, bonjour.
Alors, bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les auditeurs de la radio Kikwit.
On vous écoute.
Oui, je tiens à dire ceci. Avoir des projets, c'est pas mauvais. Avoir des projets, même la Bible dit, quelqu'un pour construire la maison doit s'asseoir et puis calculer les dépenses. Je pense que entamer la construction de Inga 3, c'est un problème réel. C'est vrai que c'est un besoin que le gouvernement pressent. Et moi, je trouve que ces projets-là n'est pas une priorité dans la mesure où il y a Inga 1 et Inga 2 qui ne sait pas totalement desservir la population en termes d'électricité. je prends, nous ne devons pas penser en termes de les pays frontaliers, les pays qui doivent bénéficier du courant de notre centrale hydroélectrique. Mais nous devons d'abord commencer par passer à nous-mêmes. Ça fait des années et des années, même dans la ville de Kinshasa, que vous alliez à Lubumbashi ou ailleurs, aucune ville où vous trouvez que le courant est stable. Partout, il se pose le même problème. Moi, je pense que le mieux serait, comme le prédécesseur venait de le dire, de pouvoir d'abord commencer par réhabiliter Inga 1, plutôt Inga 2, afin que lorsqu'on va réhabiliter, il peut produire, n'est-ce pas, une quantité du courant qui va permettre à la population de pouvoir se servir de cela. Nous avons un projet de Kakobo, là. Ça fait des années et des années. On dit Kakobo, là, bientôt les courants. C'est devenu comme une histoire démagogique. Tous les politiciens qui viennent ici à Kikwit, ils parlent en termes de Kakobo, là, pour dire que je viens ici, écoutez, demain je pars à Kakobo, là, vous aurez les courants. Mais jusqu'à aujourd'hui, à Kakobo, là, il n'y a pas de courant. Nous demeurons toujours dans les noirs.
Et aujourd'hui, mais rappelons Apocalypse que nous avons eu les mois passés. On a fait l'émission autour des Kakobola parce que le gouvernement a annoncé qu'on serait déjà bientôt à la phase de transport pour la distribution d'électricité. Est-ce que vous ne voyez pas ça là où vous êtes?
Là où nous sommes, nous ne voyons rien jusque là. Dernièrement, il y a des politiciens qui sont venus ici et qui sont allés même là, de l'autre côté, à Kakobola. Mais concrètement, nous ne voyons rien. Nous ne voyons rien. Mais c'est devenu comme une histoire démagogique, comme je vais le dire tout de suite là. C'est-à-dire quand ils viennent, pour que la population les accepte, la première des choses à faire, c'est parler des Kakobola. C'est tellement que nous sommes assoiffés du courant, et oui, nous devons accepter. Mais je pense que c'est pas ça. Il faudra qu'on soit plus concret, et qu'on soit aussi réaliste. Et même s'il faudra qu'il y ait le courant de Inga, le projet de Inga 3, d'où viendrait l'argent? À ce moment, on se plaint. D'ailleurs, le budget que nous avons, c'est un budget médiocre. C'est un budget, je veux dire, minable. D'où viendra cet argent-là? À part des projets qui ne sont pas mauvais, mais que nous n'avons pas des projets qui sont des éléphants blancs, des projets qui ne sont pas appelés à se réaliser, tout simplement parce que on ne dispose pas de moyens, on ne sait pas assis pour pouvoir calculer réellement les dépenses et voir d'où proviendrait cet argent-là. Je pense que ces projets-là, au lieu qu'on continue avec ces projets-là, le mieux serait de réhabiliter ce qui existe déjà.
Merci, alors, merci beaucoup Apocalypse. C'est parce que vous avez dit que ça ne soit pas un éléphant blanc. C'est d'ailleurs dans le discours de Monsieur Bruno Kapanjikalala lors de la semaine minière, c'était dans l'ex-Katanga. Il avait déclaré que le projet Inga 3 n'est pas un éléphant blanc. Je disais tout à l'heure qu'il faudra près de 14 milliards de dollars. C'est trois fois, on peut dire, le budget de la RDC. Vous êtes très inquiet d'où proviendront les fonds pour pouvoir financer ces grands projets. Et alors, pourquoi ne pas mobiliser les 800 millions que ça demandait jusqu'à à peu près pour réhabiliter Inga 1 et Inga 2, leur permettre de fonctionner au maximum et pouvoir maintenant comment entamer le projet Inga 3 pour éviter que ça reste aussi un projet sur papier sans pour autant le réaliser comme il faut. Merci beaucoup Apocalypse. Justin, vous êtes à Fungurume. Bonjour Justin.
Bonjour tous les visiteurs de la radio Capi.
On vous écoute Justin.
Oui. Vraiment, ça tombe à pic ici à Fungurume, puisqu'il y a presque la moitié de Fungurume qui n'est pas électrifiée, suite au brûlure du transport, où on parle du sol là, du disjoncteur. Et la population tourne les têtes et des pouces. On ne voit pas celui qui viendra vraiment dépanner cette panne. Les SNEL incapables, on fait que de défiler là où il y a les transports brûlés. Et le gouvernement provincial, on n'a même pas eu l'écho de dire que non, c'est un projet, nous viendrons vous assister, puisqu'il y a de cela 4 mois que le transport ne fonctionne pas. Et la moitié de la population de Fungurume, puisque vous n'avez jamais été à Fungurume, en tout cas c'est vaste. C'est cette population qui dort dans les noirs, les congélateurs, le quoi. Les produits périssables continuent à périr. Ça c'est un que je voulais vous mettre à la page, qu'à Fungurume il y a une partie de la population qui n'est pas électrifiée. Alors, si il faut débooster cet argent à la construction des barrages de Inga 3, or qu'il y a d'autres choses là où il faut mettre du sérieux afin que la population se retrouve, on ne songe pas à ça. Je donne la faute à nos parlementaires. Est-ce que ce projet était voté dans le Parlement ou soit c'est une initiation d'un individu qui a dit que non, construisons Inga 3, peut-être que Inga 3 servira à ses propres fins. vraiment, la population a besoin de réhabiliter d'abord les Inga 1 et Inga 2, comme mes prédécesseurs ont déjà dit, et cette population se retrouve déjà satisfaite. On fait Inga 3 pour servir, je ne sais pas, d'autres pays ou soit le monde avoisinant. Et ça serait très souhaitable. Moi, je donne la faute à nos parlementaires. Est-ce que c'est cette histoire, je ne sais pas si vous allez d'abord les demander, c'est une question à poser, que les projets votés dans le Parlement, ou soit en plénière, ou soit quoi, aucun des députés est venu nous dire qu'il y a un projet de la construction de Inga 3. La population n'est pas informée, or qu'on a envoyé nos gens pour aller nous représenter. Il est grand temps, comme on n'a pas encore fait de dépenses, si on veut construire pour leur monument, pour en mémoire d'eux, pour se souvenir de ces gens qui vont mettre, je ne sais pas, qui vont assister à la construction, là, d'accord, qu'ils construisent. Comme on n'a pas encore fait de dépenses, il est grand temps. Il y a de sérieux problèmes liés dans la population. Là où il faut aller d'abord plus vite au lieu d'aller à la construction.
Merci, merci beaucoup, Justin. Vous aurez aimé voir le projet. Il est un grand projet d'envergure qui demande la mobilisation de fonds colossaux. Vous aurez aimé le voir discuter au Parlement, mais rappelons que c'est le gouvernement congolais qui a initié ces projets parce qu'il faut beaucoup de moyens pour le réaliser. On ne peut pas le faire seul. C'est pour cela qu'il y a ces entreprises qui ont soumis leur offre, qu'on estime qu'ils peuvent mobiliser le fonds dans ces partenariats avec le gouvernement congolais pour arriver à financer ces projet, mais comme les autres compatriotes, vous aurez aimé d'abord voir le gouvernement mobiliser le fonds pour réhabiliter Inga 1 et Inga 2, leur permettre de travailler au maximum, de fournir l'électricité comme il doit, et comme ça, penser au projet Inga 3. Merci beaucoup, Alain. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Radio Capi, bonjour à tout le monde.
On vous écoute.
Premièrement, je n'adhère pas à l'approche développée par tous les intervenants qui ont eu à prendre la parole. Nous sommes en face d'un projet mutuellement exclusif. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est un projet qui peut se faire concomitamment à d'autres pour atteindre le même objectif, mais en adoptant une autre approche. On ne peut pas dire reprocher au gouvernement le fait d'avoir conçu un projet et chercher le financement extérieur pour le financer, sous prétexte que non, il devait plutôt mettre l'accent sur la réhabilitation des projets qui ont existé. Je ne suis pas d'accord par rapport à cette analyse, par le simple fait qu'il n'est pas exclu que l'État puisse faire concomitamment tout le projet. Et surtout que le dernier projet ne sera pas financé totalement par le gouvernement. Et jusqu'à preuve du contraire, le gouvernement n'a pas le moyen. Ce sont plutôt les partenaires. Et généralement, lorsqu'on est dans la gouvernance de l'État, on voit tout le potentiel qu'on a, on conçoit des projets et on cherche des financements extérieurs. Ce n'est pas parce qu'on a commencé le projet Inga 3 qu'on ne doit pas concevoir le projet Inga 4. Non, on doit arriver jusqu'à Inga 8, comme vous l'avez dit. Mais l'essentiel, c'est de voir quels sont les appâts que l'on met pour attirer les investisseurs. Mm-hmm. C'est ça le problème. Ce n'est pas que l'État congolais a dépensé l'argent pour construire Inga 3. L'État congolais a conçu le projet pour attirer les investissements. C'est ça le contexte. Et deuxièmement, si on dit qu'on doit réhabiliter Inga 1 et Inga 2, ce sont de bonnes idées, mais quels sont les problèmes réels de Inga 1 et Inga 2? De lors que nous savons que la SNEL, qui est une société commerciale, vend de l'électricité, pourquoi Inga 1 et Inga 2 ne sont pas toujours réhabilités? C'est tellement qu'il y a un autre problème qui va au-delà. Peut-être que les équipements utilisés sont devenus obsolètes, ou peut-être que la SNEL ne gère pas bien. Est-ce qu'un investisseur sérieux va accepter de venir investir dans Inga 1, Inga 2 avec tout le passif qu'il y a? Non. Mais si on conçoit un nouveau projet, ça peut nécessairement attirer de nouveaux investisseurs parce qu'ils savent que c'est un nouveau projet qui n'a pas de passif.
Mais ici, Alain, si nous devons retenir que si vous avez parlé des pesanteurs avec Inga 1 et Inga 2, c'est dans de la responsabilité de la RDC dans la gestion de ces projets. Vous avez évoqué le cas des gestions avec la SNEL. C'est mieux, on peut sauter, on peut oublier pour pouvoir avoir un nouveau projet. Mais est-ce qu'on aura résolu le problème qui ont fait des Inga 1 et Inga 2 de se retrouver là où les deux projets sont aujourd'hui?
Non, moi je ne suis pas de ceux qui pensent que nous devons abandonner. Mais cela ne peut pas nous interdire de concevoir de nouveaux projets. Ce sont des projets que nous devons avoir. Mmh. Et lorsqu'on dit que la Chine, le Japon consomment le pôle électricité, par quel mécanisme, par quelle voie, par quel moyen de transport. C'est ce qui s'est dit dans la rue. On nous dit ici, non, voilà, le Japon consomme l'électricité par satellite. Bon Dieu, est-ce qu'il y a possibilité de tirer l'électricité par satellite? Ce sont des informations de la rue. Mais ici, nous sommes en face d'un projet qui est bien conçu de mon point de vue. Mais la responsabilité de l'État, là où je ne suis pas d'accord avec le gouvernement, c'est sa versatilité par rapport à la stabilité, par rapport à la manière de négocier le projet. Comme vous l'avez dit, nous avons commencé avec la Banque mondiale. La Banque mondiale est une sorte de commissionnaire qui connaît le bailleur et qui sait comment les attirer vers un projet. Mais dès lors que la Banque mondiale s'est désolidarisée du projet, cela sous-entend que ça ternit ce qu'on appelle l'indice de fréquentabilité. C'est-à-dire aujourd'hui, le bailleur, le financier, ne viendront pas poser, mettre leurs fonds dans un tel projet, de l'heure que la Banque mondiale s'est retirée. Ça décrédibilise le projet. Mais si on doit voir dans cet angle-là, eh bien, le gouvernement doit aussi essayer de faire en sorte de donner une nouvelle image. Parce que tous ces gens-là qui viennent n'ont pas besoin de cacher, de jeter leur argent. Ils veulent réduire d'abord le risque de perte. Alors le taux de risque est élevé, et bien ils ne viendront pas investir. Et lorsqu'ils ne viendront pas investir, le projet risque d'être une lettre morte. Mais en soi, c'est un bon projet. C'est un bon projet qui renforce la capacité de production et l'électricité. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit abandonner Inga 1, Inga 2, non. Ici, on doit voir quels sont les équipements qui ont été utilisés dans Inga 1 et Inga 2. Est-ce qu'il y a possibilité de renouveler les équipements ou sinon de réparer ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a encore les fabricants?
Merci. Merci beaucoup, Alain. Vous soutenez le projet, mais vous estimez que d'autre part, le gouvernement ne devait pas être versatile parce que lors du retrait de la Banque mondiale du projet, ça risquait de ne pas crédibiliser, n'est-ce pas, le projet. On va écouter Félicien qui est à Kinshasa et terminer l'émission avec vous, Patrick. Vous êtes le chargé des communications de l'agence de développement des projets INGA. Félicien, vous avez suivi les uns et les autres. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auteurs de Radio Okapi.
On vous écoute.
Oui, moi je pense que cette histoire d'Ingala, c'est devenu comme une histoire de mille et une nuits. Et ça fait depuis la Deuxième République, même la Première République, et jusqu'à aujourd'hui on est toujours sur les projets d'Ingala, mais il n'y a pas vraiment de progrès sur le terrain. Comment un pays qui a aussi... beaucoup de cours d'eau, une hydrographie très importante, on ne peut pas penser au micro-barrage pour aider certaines villes qui sont éloignées de Inga, et alors qu'ailleurs, même avec les panneaux solaires, on est en train d'électrifier des villes et des villages, des cités, tout ça, et nous nous attendons toujours Inga pour que nous puissions électrifier les pays pour que nous puissions donner l'électricité qui apporte le développement dans les pays. Et c'est Inga là, et on a fait la phase 1, 2, et pas de solution. Et même quand il y a du courant, Inga fonctionne. Kinshasa n'a pas du courant, Matadi n'a pas d'électricité parce qu'il n'y a pas de matériel. On ne renouvelle pas les matériels, on ne renouvelle pas les câbles, on ne renouvelle pas les transports. Mais c'est quand... on aura Inga 3 et 4, on va arriver à Kisangani, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à renouveler les matériels et l'équipement ou tous ces câbles qui devaient transporter l'électricité. Moi, je crois qu'il faut qu'on prenne le développement du pays au sérieux et que ceux qui dirigent le pays puissent avoir une volonté politique pour développer le pays, mais qu'on ne tourne pas en rond, c'est comme si on voulait faire plaisir à quelqu'un. Répéter tout le temps Inga, mais qui n'avance pas.
Mais dans le fond, voilà. Merci beaucoup, Félicien. C'est pourquoi nous allons poser la question. Comme je l'ai dit, on va terminer avec vous, Patrick. Merci de nous avoir rejoint. Vous êtes les chargés de communication de l'Agence pour le développement du projet Inga. Bonjour.
Bonjour.
Et vous avez suivi les uns et les autres. Vous avez eu l'occasion de suivre l'ensemble des auditeurs et en quelques lignes pour leur permettre de comprendre où en sommes-nous aujourd'hui avec le développement du projet Inga 3.
Bon, merci pour la parole. En fait, je comptais juste intervenir sur un petit point. Par rapport à ceux qui pensent qu'il faudrait d'abord réhabiliter Inga 1 et 2 avant de passer à Inga 3, ben, ce qu'il faudrait savoir, c'est que même si on réhabilitait Inga 1 et 2, ça ne serait qu'aux environs de 1700 mégawatts, le total. Or, aujourd'hui, le déficit dans notre pays va au-delà de 3000 mégawatts. Donc, ça ne suffirait toujours pas, même si il fallait se limiter qu'à réhabiliter Inga 1 et 2. Donc, d'où la nécessité de faire Inga 3. Et puis, c'est un projet bénéfique pour la République. Je crois que son Excellence, Monsieur le chargé de mission, l'a plusieurs fois bien expliqué. Et il y aura des retombées positives pour le pays, entre autres les emplois, la sous-traitance, la création de sociétés de projet avec une possibilité d'actionnariat pour les Congolais. Et je crois que il aurait été beaucoup plus intéressant de nous contacter ou de venir à nous avant de lancer le débat, bien sûr, parce que nous n'étions pas informés, malheureusement. Mais peut-être qu'à une autre occasion, on aura plus de temps pour donner plus de détails.
Oui, Patrick. Bon, en fait, nous sommes à une septième, si on peut le dire, septième émission autour de la question Inga 3. C'est pour cela que, dans les débats, les auditeurs ont mis un point de vue, parce qu'il faudrait quand même qu'on sache à quel niveau en sommes-nous aujourd'hui, tout en exploitant tous les discours qui a été fait. On est à quelle phase concrètement pour que les gens comprennent à quelle phase on est aujourd'hui avec Inga 3, parce que ça fait quand même longtemps qu'on en parle.
Je vous réponds. Mais aujourd'hui, je crois que tout le monde l'a vu, il y a eu la signature de l'accord de développement exclusif. Donc aujourd'hui, nous avons le premier acte engageant pour ce projet, et c'est historique. Alors, nous sommes déjà sur la dernière ligne droite, mais sinon, je voulais aussi préciser que Inga 1 et 2 sont déjà en réhabilitation avec la SNEL. Donc ceux-là qui aujourd'hui disent, voilà, il faut d'abord réhabiliter Inga 1 et 2, eh ben, ils doivent savoir que cela est déjà en cours avec la SNEL. Inga 3 ne dépend pas de la SNEL, elle est gérée par la DEPI. Donc aujourd'hui, où est-ce qu'on en est avec le projet? On a signé l'accord de développement exclusif, ça a été partout dans les médias, et c'est la dernière ligne droite, plus ou moins, jusqu'à ce que nous puissions passer à l'étape supérieure.
Mmh. Donc, alors, quand on parle de ce projet rapidement, c'est une question de fond. Aujourd'hui, quel est le niveau de crédibilité que le projet a pour arriver vraiment à mobiliser les fonds nécessaires pour le réaliser?
Nous pourrons à une autre occasion développer ce sujet-là, vu que nous avons été mis en contact brusquement, sans planification d'ailleurs. Mais à la prochaine occasion, je vous demande de nous inviter pour que nous puissions donner plus de détails prochainement.
Merci beaucoup, Patrick. Je rappelle que vous êtes chargé des communications de l'agence pour le développement du projet Inga. Je crois à la prochaine. Je rappelle quand même qu'on est à une septième émission autour de cette question du développement des projets Inga. Vous avez été nombreux. Nous poursuivons le débat sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs, où plus de 1000 personnes ont été atteintes après avoir lu ces sujets, et les autres qui continuent à les commenter. On était avec Christian tout à l'heure qui nous a écrit des bandundous, qui estime que le problème, c'est au niveau où la RDC peut être crédible dans la gestion de fonds. Il a évoqué aussi les questions, la question du retrait de la Banque mondiale dans les projets en 2016, estimant, comme Alain venait de le dire, que cela risque de décrédibiliser le projet. Alors, il estime pour lui que le gouvernement devra donner toutes les garanties si possible à ses partenaires pour arriver à réaliser ses projets jusqu'au bout. Élie Lokwa était avec nous tout à l'heure en direct, et Alain est revenu aussi sur la question de la PR. Ignace Ndala estime pour sa part que le projet aujourd'hui, c'est un projet plus que nécessaire, qui devrait envisager d'autres sources d'énergie. Ça veut dire pour lui, il faut que la RDC envisage également d'autres sources d'énergie. Vous avez été nombreux à commenter en direct, mais on poursuit les débats sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Vous êtes nombreux à vous connecter en ce moment même, parce que la question de Inga 3 intéresse au plus haut point l'ensemble de la population.
Ils ne répondent pas.
Merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de ce magazine. Polydor Basunga a été à la mise en onde. Nico Kalamba a été à la réalisation. Et Pierrot et la Mégie, je vous l'ai présenté sous la supervision de Martin Sebujangue. On se retrouve demain pour un autre numéro des paroles aux auditeurs. Vous allez retrouver cette émission tout à l'heure sur www.radiocapi.net. Merci et au revoir.